نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عمرون، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على قبول دعوة حوار نشرة اليوم. شكرا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
Radio Algérie Internationale. Le journal.
Et à la une de l'actualité de ce lundi 22 avril, le président de la République Abdelmadjid Tebboune est en Tunisie pour prendre part à la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La situation humanitaire à Gaza est désastreuse. Des dizaines de corps ont été découverts, enterrés dans la cour d'un hôpital à Khan Younes. Le gouvernement palestinien appelle à l'ouverture d'une enquête sur ces crimes odieux commis par l'occupant sioniste. Alors que les appels internationaux à un cessez-le-feu se multiplient, Netanyahou menace d'accroître la pression sur le mouvement de résistance palestinien Hamas dans les prochains jours. Sport football, la rencontre entre l'USM Alger et l'équipe marocaine de la Renaissance Barkhane. Comptant pour la demi-finale aller de la Coupe de la CAF, prévue hier à Alger, n'a pas eu lieu. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, est avec vous à Wakilou pour ce 13h30 qu'on entame avec la coopération algéro-tunisienne et libyenne également. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé en Tunisie aujourd'hui, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pour prendre part à la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. La visite du président de la République intervient à l'invitation de son frère, le président de la République tunisienne, Qaïs Saïed. Ce nouveau cadre de concertation maghrébin sera donc une occasion pour coordonner les positions des uns et des autres concernant les questions régionales et internationales. Les détails avec l'envoyé de la radio algérienne à Tunis, Rim Boukhari.
Une rencontre tripartite dont le principe a été décidé par les dirigeants des trois pays lorsqu'ils s'étaient vus il y a un mois en marge du sommet du gaz à Alger. Les trois pays avaient alors souligné dans un communiqué commun la nécessité d'unifier, d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires au service des intérêts de leur peuple. Et ces efforts sont en premier lieu consentis par l'Algérie. L'Algérie, sous la direction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a dernièrement souligné lors d'une rencontre avec la presse que dans cet espace, la porte était ouverte aux pays de la région sans exclusion aucune. Le président Tebboune, qui avait également rappelé dans ce sillage les excellentes relations qui lient l'Algérie à la Tunisie, la Libye, mais également la Mauritanie. La Mauritanie qui pourrait d'ailleurs rejoindre ce cadre de concertation. Il y a lieu de rappeler qu'au cours de ces dernières années, les relations bilatérales avec la Tunisie, la Libye et la Mauritanie se sont beaucoup renforcées grâce à la volonté du président de la République, mais également des trois autres dirigeants, un renforcement qui s'est traduit par le lancement de nombreux projets stratégiques communs. Et aujourd'hui, cette première rencontre consultative qui se déroule à Tunis sera l'occasion de faire le point sur les positions de chaque parti. Un communiqué final devra d'ailleurs sanctionner les travaux de cette réunion consultative. Du palais Carthage à Tunis, Rim Boukhari pour la radio algérienne.
Dans le reste de l'actualité, le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a exprimé hier sa reconnaissance envers l'Algérie, gouvernement et peuple, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien continu à la lutte du peuple sahraoui dans différents domaines pour faire face à l'agression expansionniste marocaine. C'est ce qu'a indiqué un communiqué final de la réunion du bureau, qui a porté essentiellement sur la rencontre du président sahraoui Ibrahim Ghali et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et plusieurs autres ont été blessés ce lundi à l'aube dans de nouveaux massacres commis par l'armée de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza, théâtre d'une agression génocidaire sioniste depuis près de 200 jours. Le bilan de cette agression barbare s'est alourdi à plus de 34 150 martyrs et plus de 77 000 blessés depuis le 7 octobre dernier. Restons toujours en Palestine. Palestine occupée, plusieurs organisations internationales ont alerté sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza, condamnant les pratiques inhumaines de l'occupant sioniste dans les territoires palestiniens occupés. D'ailleurs, des dizaines de corps ont été découverts, enterrés dans la cour d'un hôpital de la bande de Gaza qui avait fait l'objet d'un raid de sionistes. Dans ce sillage, le directeur général du bureau médiatique du gouvernement à Gaza, Ismaïl Touabta, a appelé justement à l'ouverture d'une enquête internationale sur les crimes commis par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Je vous propose de l'écouter. Il répondait aux questions de Ahlam Bouzaïr.
Nous avons découvert deux charniers à l'intérieur de l'hôpital Nasser à Khan Younes et les équipes sur place ont déterré jusqu'à aujourd'hui 210 corps de martyrs et nous nous attendons à ce que le chiffre atteigne les 500 martyrs car selon les informations que nous détenons, l'occupant sioniste est responsable de la disparition de 700 personnes depuis son offensive sur cet hôpital. Depuis le début de cette guerre, nous avons trouvé des cadavres mutilés. D'ailleurs, nous savons que l'armée sioniste a une banque spéciale qui a collecté jusqu'à présent 170 mètres carrés de peau et récupère les organes de dépouille des martyrs.
Et malgré les pressions de la communauté internationale pour mettre fin au génocide sioniste dans la bande de Gaza, Netanyahou a donc menacé hier d'accroître la pression militaire sur le mouvement palestinien de résistance Hamas dans les prochains jours, estimant que cela représentait le seul moyen de libérer les détenus. Les détails tout de suite avec Sabrina Nawin.
L'armée d'occupation sioniste a annoncé que le chef d'état-major avait approuvé son projet de poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza. Les déclarations du porte-parole de l'armée interviennent après que le premier ministre Benjamin Netanyahu a menacé d'augmenter la pression politique et militaire sur Hamas. Poursuivre la guerre et envenimer la situation sert les intérêts des partis politiques sionistes, déclare Samir Zakout, le sous-directeur du Centre Al-Mizan pour les droits de l'homme en Palestine.
L'occupant sioniste, à moins qu'il ne sente une pression sérieuse, poursuivra le processus d'anéantissement, car il est dans son intérêt de poursuivre la guerre. Netanyahu et ses alliés dans ce gouvernement, à savoir Smotrich et Ben Gvir, le savent, si l'agression prend fin, et s'il y aura des élections, le sort de Netanyahu sera l'emprisonnement et ils n'auront aucune place à la Knesset sioniste. Par conséquent, la poursuite de la guerre signifie la poursuite de leur maintien au pouvoir. Et personne ne s'attend à une agression contre la bande de Gaza s'arrête à moins d'une action sérieuse. Malheureusement, jusqu'à présent, ni les pays arabes ni les pays musulmans n'ont eu une position menaçante et pressante sur les États-Unis qui encourage l'occupant sioniste.
L'entité sioniste poursuit sa guerre contre la bande de Gaza malgré l'adoption d'une résolution de cessez-le-feu immédiate par le Conseil de sécurité de l'ONU et malgré sa comparution devant la Cour internationale de justice pour avoir commis un génocide, laissant derrière elle des destructions massives.
Et au moment où les craintes quant à une offensive sur la ville surpeuplée de Rafah augmentent, le premier ministre sioniste s'efforce d'étendre la zone humanitaire dans cette région afin d'augmenter la capacité d'accueil jusqu'à 1 million de déplacés. C'est le sujet de Sofiane Zadi.
L'offensive sioniste terrestre sur Rafah semble être de plus en plus imminente. Le rapprochement et l'entente établie suite à la réponse favorable de l'entité sioniste aux conditions exigées par les États-Unis d'Amérique serait l'élément décisif qui renforce cette hypothèse, nous dit l'expert des questions sécuritaires et stratégiques Amin Hattit.
Il semble que les États-Unis d'Amérique et l'entité sioniste se sont enfin mis d'accord sur l'exécution imminente de l'offensive militaire terrestre sioniste à Rafah, mais selon trois conditions bien précises. La première, c'est le déplacement du plus grand nombre de civils de la zone concernée. La deuxième, se contenter à des opérations bien ciblées et bien définies et non pas une offensive générale. La troisième est la durée maximale offerte à l'entité sioniste pour l'exécution de cette offensive et qui ne dépasserait pas les 5 semaines.
L'expert ajoute que tous les détails ou presque sont établis pour l'exécution de cette offensive à Rafah.
Il semble que l'entité sioniste a commencé à mettre en œuvre ces conditions en commençant à préparer des camps pour recevoir un nombre important de réfugiés palestiniens. Cette opération est censée se faire en une période de 2 semaines maximum. En conclusion, on peut dire que l'entité sioniste et les États-Unis ont tranché sur l'exécution et la durée de cette offensive militaire à Rafah. Il reste seulement à savoir la date prévue. Est-ce que cela se fera avant ou après les festivités religieuses juives.
Aucun de ses objectifs annoncés dès le début de sa guerre à Gaza, l'entité sioniste brandit la carte de l'offensive terrestre à Rafah, une manière de faire pression sur la résistance palestinienne attachée à ses principes et à ses conditions tout à fait légales.
Nous célébrons ce lundi 22 avril la Journée mondiale de la Terre, également appelée Journée internationale de la Terre nourricière par l'Organisation des Nations Unies qui a initié cette commémoration, la Terre source de richesse pour les peuples du monde entier, à l'instar du peuple palestinien et sahraoui qui se voient privés de leur droit d'exploiter leurs terres librement et dont les richesses sont soit spolié, soit détruit par l'occupant. C'est ce qu'a affirmé Gilles Devers, avocat défenseur des causes justes palestiniennes et sahraouis. Il a été contacté par Sofiane Zadi.
Et tout à fait, qu'il s'agisse du Sahara occidental ou de la Palestine, la question est la même. Juridiquement, c'est le principe de l'autodétermination des peuples, avec donc un régime bien connu et très précis, vu qu'il est quand même à l'origine de plus de 60 États dans le monde. Mais si on passe le cap de la lecture juridique pour aller de manière plus fondamentale, c'est l'attachement à la terre. Eh bien, c'est la théorie du droit de l'autodétermination et c'est l'histoire des peuples. Cette journée de la terre, c'est la journée de la terre, c'est aussi la journée de la paix, c'est la journée de la prospérité des familles. Et j'appelle vraiment à une réflexion large, si on veut bien comprendre ce qui est en jeu. Les exploiteurs, ceux qui volent, ceux qui utilisent le capital pour prendre des possessions dont ensuite ils cherchent simplement à s'enrichir et à tirer du bénéfice, ruinent les économies et revenons à l'idée simple, un homme sur sa terre et une famille qui se transmet son histoire au fil du temps.
Autre actualité, le forum de haut niveau entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe sur la sécurité et la coopération régionale se tient aujourd'hui à Luxembourg. Il sera donc présidé par le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité européenne, Joseph Borrell, et le premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohamed Ben Abdullah Rahman Al Thani. Les détails depuis Bruxelles avec Habib Ansafi.
Ce forum vise à renforcer le dialogue politique entre les pays des deux organisations et de renforcer davantage la coordination sur les questions liées à la stabilité et la sécurité régionale et mondiale. Par ailleurs, les ministres discuteront sur la question du renforcement de la coopération entre les pays du CCG et l'Union européenne dans divers domaines, ainsi que de l'importance de la coopération multilatérale, en plus de discuter des développements sur les scènes régionales et internationales. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, M. Jazm El-Boudouawi, a déclaré que le forum de haut niveau sur la sécurité et la coopération régionale constitue une occasion majeure de promouvoir le dialogue et la coordination entre les deux organisations sur des questions d'importance régionale et mondiale, notamment sur la stabilité et la sécurité. M. El-Boudawi a souligné que le renforcement des relations bilatérales et le développement de nouveaux mécanismes de coopération entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe permettront aux deux parties de parvenir à des visions communes sur un large éventail des questions. Toutefois, vont-ils occulter la question cruciale, celle de la paix en Palestine, et montrer une détermination à tenter de dissuader l'entité sioniste afin d'arrêter le génocide. Pour Radio Algérie Internationale, Habib Bensafi, Bruxelles.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce lundi à Bagdad pour sa première visite d'État, donc depuis 2011, avec au programme la signature d'une série d'accords et des discussions épineuses sur la sécurité régionale. Plus de détails avec Zeynep Benzaoui depuis Istanbul.
Accompagné d'un groupe de ministres, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé lundi dans la capitale irakienne Bagdad pour une visite officielle d'une journée, 13 ans après sa dernière visite. Cette visite intervient à la lumière d'un vaste rapprochement stratégique entre la Turquie et l'Irak après une série de réunions de sécurité de haut niveau. Les questions économiques telles que l'augmentation du volume du commerce bilatéral, la gestion de la crise de de l'eau en Irak et les contributions potentielles de la Turquie à cet égard, outre les exigences irakiennes concernant le transport du gaz naturel et du pétrole à travers la Turquie, figure en tête de l'agenda du président turc. Au cours de sa visite, Erdogan rencontra son homologue irakien Abdullah Latif Rachid et le premier ministre irakien Mohamed Feyyar Soudani dans la capitale Bagdad. Depuis Istanbul, Zineb Benzawi, Radio Algérie Internationale.
13h45 minutes sur les ondes de Radio Algérie Internationale. On passe à présent à l'actualité sportive avec vous. Smaïl Kolsou, bonjour.
Bonjour.
Et on va principalement parler de la rencontre entre l'USM Alger et l'équipe marocaine de la Renaissance Barkhane, comptant pour la demi-finale aller de la Coupe de la CAF qui était prévue hier à Alger, mais qui n'a pas eu lieu, Smaïl.
Bah, vous l'avez dit, Zahoua, la rencontre qui devait opposer l'USM Alger à la Renaissance Barkhane pour le compte de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine a été annulée. Comme il fallait s'y attendre et sur un acte prémédité, les joueurs marocains ont décidé de boycotter ce match et ont refusé de jouer avec les maillots mis à disposition par la Fédération algérienne du football. Malgré leur présence au stade du 5 juillet, les Marocains ont refusé de fouler la pelouse, campant sur leur position de vouloir jouer avec des maillots controversés comportant la carte du Maroc avec celle du Sahara occidental, ce qui représente, vous le savez, un slogan politique et bien évidemment interdit par la FIFA. Le directeur sportif de l'USBA, Tawfiq Qureshi, estime que la direction usmiste saisira bel et bien le tribunal arbitral du sport pour protéger les intérêts de l'USMA.
الاتحاد الافريقي اعطى الحق لهذا الفريق باش يرتدي هذه الاقمشه الان كاين قوانين وسنحترم هذه القوانين ونمر الى بطبيعه الحال يكون طعن الى الطاس ستفصل في هذا الموضوع وقانون الفيفا واضحه وضوح الشمس بالصور وبليزارتيكل.
Voilà, et puis la CAF, dans un communiqué publié hier, s'excuse auprès des sponsors par rapport au match qui n'a pas eu lieu et bien évidemment a décidé de renvoyer cette affaire aux instances compétentes, à savoir le tribunal arbitral du sport. Et l'affaire finira bel et bien dans le bureau du TAS. En handball, avec le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se déroule à Oran, les représentants algériens, vous avez, ils sont quatre, l'ont débuté avec le duel 100% algérien mettant en prise cet après-midi à 16h l'OM Annaba à la JSS Kigda pour une place en quart de finale. On va écouter d'abord l'entraîneur de l'OM Annaba, Hicham Boudrali, au micro de notre envoyé spécial à Oran, Walid Merzougi.
Premièrement, je remercie mes joueurs pour leur effort pendant tous les deux matchs. Malgré la difficulté, on a pu être à la tête de ce groupe en gagnant les deux matchs contre l'équipe ivoirienne et l'équipe de Mila. C'était notre objectif dès le départ, alhamdoulilah. On est qualifié pour le deuxième tour, le tour principal. On va jouer l'équipe de Skikda demain à 16h et l'équipe de l'Aline égyptien à 20h.
Voilà, et à présent, on va écouter les impressions de l'entraîneur de la JSS Kigda, l'Akhdar Arroche, toujours au micro de Walid Merzouki.
Bon, déjà, il y avait un premier clapet à ouvrir, c'était le gagner le premier match contre le SAT Ain Touta pour avoir la possibilité de se qualifier au deuxième tour et donc de jouer le tour principal, pour ne pas jouer les matchs de le tour de classement.
Voilà, c'était l'Akhdar Arroj, l'entraîneur de la JSS Kigda, donc ça sera à 16h. Et pour les autres représentants algériens, le club de Mila croisera le fer avec le géant égyptien Al Ahly, ça sera à 14h. Et le quatrième représentant algérien, à savoir le HBC Albiar, affrontera l'Espérance de Tunis.
Merci Ismaël Korso pour toutes ces précisions. On arrive ainsi, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est en Tunisie pour prendre part à la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La situation humanitaire à Gaza est désastreuse. Des dizaines de corps ont été découverts enterrés dans la cour d'un hôpital à Khan Younes. Le gouvernement palestinien appelle à l'ouverture d'une enquête sur ces crimes odieux commis par l'occupant sioniste. Alors que les appels internationaux à un cessez-le-feu se multiplient, Netanyahou menace d'accroître la pression sur le mouvement de résistance palestinien Hamas dans les prochains jours. Sport football, la rencontre entre l'USM Alger et l'équipe marocaine de la Renaissance Barkhane comptant pour la demi-finale aller de la Coupe de la CAF prévu hier à Alger n'a pas eu lieu. Vous avez suivi les détails tout à l'heure avec Smaël Rosso dans cette édition. Ce jingle marque donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Nadir Riyad Boudhar de l'avoir réalisé. Restez avec nous tout de suite. L'entretien du journal présenté par Wassila Bouabid. Bonne écoute.
L'interview du journal.
L'interview du journal.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Alors, décidément, le Maroc continue d'attiser les tensions avec l'Algérie dans tous les domaines, même le sport. Après la tentative du club de football marocain, la Renaissance de Berkane, d'entrer sur le territoire algérien avec des maillots controversés flanqués d'une carte géographique du Sahara occidental annexée au Maroc. Pour en parler avec nous, Monsieur Saïd Laïachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Laïachi, bonjour.
Sabah
al-Nour, Monsieur Laïachi. Alors, Monsieur Laïachi, les échecs à répétition du Merzen au niveau régional et international sont à l'origine de ces actions provocatrices.
Oui, c'est une, à l'évidence, c'est une provocation de plus, une provocation inadmissible à plusieurs titres. D'abord, c'est l'implication du peuple frère marocain dans une affaire, bien entendu, qui ne peut qu'attiser l'inimitié entre les peuples algériens et les peuples marocains, puisqu'il s'agit de sport, et on sait toute la dimension du sport dans la réceptivité populaire. Quand on envoie des joueurs avec une carte falsifiée, non reconnue à travers toute la planète, c'est uniquement pour provoquer les supporters algériens. Et bien entendu, il ne s'agira plus de sport après, mais d'invectives et d'accrochage même entre les supporters des deux côtés. Et en tout cas, c'est ce que voulait préparer le Marzen. Donc vous voyez que à défaut d'avoir des arguments juridiques ou diplomatiques ou politiques ou même sociologiques, il se tourne maintenant vers des procédés que nous avons connus déjà par le passé, et aujourd'hui l'intrusion carrément dans le domaine du sport, ce qui peut, à Dieu ne plaise, connaître des conséquences tout à fait regrettables et intolérables pour la fraternité qui existe entre les peuples marocains et les peuples algériens.
Justement, M. Laïachi, le Merzen éclipsé de la scène politique régionale et internationale à cause de la préoccupation de son allié stratégique qui est les sionistes, l'entité sioniste, par sa morbide guerre qu'il mène contre Gaza.
Mais il ne fait, en fait, dont sa course est perdue, sa politique de fuite en avant qu'il pratique dans ce dossier du conflit du Sahara occidental auquel l'a pourvoyé feu le roi Hassan II, et maintenant son fils qui continue toujours dans la même démarche. Le royaume du Maroc et son administration d'occupation se trouvent dans une impasse tout à fait vérifiée, et par conséquent maintenant il se tourne vers d'autres expédients, vers d'autres modes opératoires pour faire aboutir sa politique de colonisation. Il s'est allié à l'entité sioniste. Regardez le paradoxe. Le roi Hassan II hier et aujourd'hui, son fils Mohamed VI, son président du comité Al-Quds, la ville d'Al-Quds est violée quotidiennement par l'entité sioniste, et il ne proteste même pas contre l'installation de certains pays complices qui installent leur ambassade à Al-Quds. Ne parlons pas de la mosquée d'Al-Aqsa qui est également violée quotidiennement par la soldatesque sioniste. Et bien sûr, sa normalisation criminelle avec l'entité sioniste fait que, condamné d'ailleurs par le peuple marocain, il y a même des structures marocaines aujourd'hui qui existent contre la normalisation. Voyez comment le peuple marocain réagit de façon positive quand il le faut, mais évidemment il est sous la férule d'une monarchie de droit divin, tout à fait sous les pressions quotidiennes du Marzen, et on a vu les manifestations quotidiennes à travers le Maroc contre la normalisation d'un côté, condamnant le fait que des criminels qui ont tué à Sabra et Shatila hier et qui aujourd'hui tuent encore à Gaza soit accueilli à bras ouverts avec des bouche-bouche, en veux-tu, en voilà. Et bien entendu, c'est ça la véritable nature du régime marocain, c'est-à-dire un régime aux abois, un régime en déconfiture, un régime qui se tourne vers des expédients criminels, quitte à envenimer les choses, alors qu'il faudra peut-être travailler à plus de rapprochement. D'où l'initiative du président de la République en ce qui concerne la Tunisie, la Libye, qui devrait être appelée à asseoir une politique de complémentarité économique et sécuritaire entre les trois pays, puisque le régime, ce même régime marocain, de façon également irresponsable, bloque l'union du Maghreb arabe depuis maintenant 20 ans.
Et justement, en parlant de ça, M. El-Iachi, la diplomatie algérienne, qui a démontré son efficacité en un temps record au niveau du Conseil de sécurité, ces éléments, M. El-Iachi, sont durs à avaler pour le régime marocain qui, recourt bien sûr à chaque fois aux pratiques.
Notre diplomatie, non seulement en ce qui concerne le Sahara occidental, mais en ce qui concerne également la Palestine, a été flamboyante depuis des décades, non seulement au sein de l'Organisation des Nations Unies, mais au sein de l'Union africaine et au sein même de la Ligue arabe, s'il faut le rappeler. On a vu les initiatives du président de la République pour réconcilier les factions palestiniennes. On a vu comment l'Algérie, sur instruction du président de la République, a débloqué des fonds spéciaux pour la résistance palestinienne. On a vu comment, au sein du Conseil de sécurité, avec ténacité, avec persévérance, notre diplomatie a réussi à faire passer une résolution en faveur du cessez-le-feu pour protéger le peuple palestinien de Gaza et pour permettre l'acheminement des fournitures alimentaires pour le peuple palestinien affamé par l'armée sioniste. On a vu comment, au sein de l'Union africaine, l'Algérie avec l'Afrique du Sud ont empêché l'admission de l'entité sioniste comme membre observateur, alors que le régime marocain criminel était en train de l'aider à intégrer l'Union africaine, donc en défaveur, au détriment de la résistance palestinienne et de la Palestine en tant qu'État qui existe comme observateur au sein de l'Union africaine. Tout ça montre que vous avez deux États, l'un qui travaille pour le droit international, pour la justice, pour la liberté, pour la fraternité des peuples arabes, et l'autre qui travaille tout à fait au sens contraire, qui travaille contre les Palestiniens. Deux avaient installé le Mossad lors d'une réunion du sommet arabe à Casablanca. Et donc, vous voyez que tout ça fait que nous sommes à l'antipode l'un de l'autre. L'Algérie, fidèle au principe de novembre, fidèle à toute forme de colonialisme ou d'occupation, et en face, le Maroc, qui lui-même est colonisateur, mais qui aussi, d'une certaine façon, directement ou indirectement, réprime les Palestiniens, puisqu'il est l'allié de l'entité sioniste, et d'une certaine façon, le Maroc a aussi appuyé sur la gâchette. Le Maroc a aussi largué des bombes contre les Palestiniens.
Et le Maroc,
d'une façon ou d'une autre.
Une dernière question, M. El-Iachi. Est-ce que ces agitations sont liées à la Cour de justice européenne qui est prévue dans les jours qui viennent et les tensions internes et les revendications du peuple marocain?
Vous savez, les peuples ne se trompent pas. Mm-hmm. Et même le régime marocain ne réussira pas à tromper son propre peuple. Les peuples savent lire. Les peuples ont étudié l'histoire et les peuples savent
connaissent
faire
la vérité.
Entre un État qui travaille pour la fraternité, la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité, et un peuple qui fait tout à fait le contraire en se mettant au service des États voyous et criminels. Pour répondre à votre dernière question en ce qui concerne la Cour de justice de l'Union européenne, oui, nous avons enregistré avec satisfaction les conclusions de l'avocat général, puisque vous savez que on attend le prononcé définitif du jugement concernant les accords d'association et commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne. Vous savez qu'il y a eu déjà 4 prononcés de jugement, tous en faveur du Front Polisario, en 2016, 2018 et en septembre 2021. Nous attendons le dernier qui ne donnera plus droit au recours, qui sera donc définitif pour le mois de juin ou le mois de septembre. Et déjà, les conclusions de l'avocat général sont très favorables au Front Polisario, puisqu'il confirme les premiers jugements contre lequel la Commission européenne a fait recours, qui reconnaît au peuple sahraoui le droit de gérer ses propres ressources, qui reconnaît qu'il n'y a pas de lien entre, et ça c'est très important, entre le Sahara occidental et le Royaume du Maroc, qui reconnaît plein sur le plan juridique et sur le plan politique beaucoup de qui reconnaît au Front Polisario la représentativité du peuple sahraoui, ce que conteste de façon permanente le régime criminels marocains. Et donc, nous attendons ce prononcé du jugement qui sera une très grande victoire pour le peuple sahraoui. En attendant que le Conseil de sécurité et l'Union africaine prennent les responsabilités afin de permettre au peuple sahraoui de choisir librement son destin.
Monsieur Saïd Aïachi, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de cet entretien. Vous avez été présent.